Il faut que tu te saisisses du problème. Et du coup, je me suis battue et j'ai lutté contre ces réquisitions qui étaient lourdes contre moi, parce qu'on voulait m'envoyer en prison, on voulait m'interdire d'exercer. Et à cette époque-là, ma robe, c'était tout ce qui me restait, donc il fallait que je la garde absolument. C'était le seul moyen.
Quand dans sa vie, on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment ? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Sophie.
Bonjour Sarah.
Alors j'aimerais bien que tu me racontes quelle est ta vie dans la vingtaine, ton boulot, ta famille, quelle est la photo de ta vie le début de ta vie pro, en gros.
Au début de ma vie pro, on est environ en 2008-2009. Je viens de terminer l'école d'avocat, cherche du travail. Tout se passe bien au quotidien dans ma vie. J'ai pas de problème quel qu'il soit et à aucun niveau. J'ai une situation familiale qui est très sympa. J'ai de bons rapports avec mes parents. Je suis issue d'une fratrie de 4 enfants, ça se passe très bien. J'ai pas de problématiques particulières et je vais rapidement intégrer un cabinet, aussi rapidement m'en faire virer et décider finalement de m'installer et de monter ma propre structure.
T'as pas eu peur de faire ça, de te lancer ?
Si. J'avais très peur, mais j'avais un très grand soutien de la part de mes parents qui m'ont poussée à le faire parce qu'ils étaient entrepreneurs et qui considéraient que il fallait se lancer, que c'était une profession libérale et que c'était important de travailler pour soi plutôt que de se faire exploiter par les autres. C'était un petit peu leur vision des choses. Et comme je venais d'emménager, je me souviens au moment de cette discussion d'installation ou pas, que mon père m'avait dit « t'inquiète pas, si t'as peur de pas remplir ton frigidaire, avec maman on sera là ». Donc j'avais peur, mais c'était pas une vraie peur en vérité.
Et tu peux nous parler un peu de tes parents ?
Ouais, bien sûr. J'ai envie de dire comme dans les livres, comme ça existe plus dans la vraie vie, un couple ultra uni, soudé, qui vit ensemble, travaille ensemble, mange ensemble, part en vacances ensemble. Ils font rien l'un sans l'autre, jamais, jamais. C'est inenvisageable. Beaucoup d'amour, très peu de disputes, très peu de désaccords. Ils sont deux, mais ils ne font qu'un en vérité. C'est assez impressionnant, c'est même difficile à raconter parce que les gens n'y croient pas. Comme dans les films en fait, comme dans les séries, comme dans tout ce qui n'est pas la vraie vie. Donc un couple assez impressionnant et je crois que ça nous impressionne nous à l'intérieur de la famille. Mais je crois que les gens de l'extérieur, ça les impressionne aussi, tellement ils sont soudés, tellement leur amour est fort et puissant.
Et vous êtes comme ça dans toute la famille, c'est-à-dire que vous, il y a un vrai foyer. Tu parles d'emménagement, mais vous partez en vacances ensemble, vous faites des trucs ensemble, ou c'est vraiment le couple et les enfants vivent leur vie d'adultes?
Alors oui, quand je parle d'emménager, j'emménage, mais j'emménage en face de chez eux. Déjà, quand même, pour le préciser, c'est important. Et puis, oui, on part en vacances ensemble, on fait tout ensemble. Et il y a une valeur famille qui est tellement forte que quand ils reçoivent une invitation pour un mariage où il n'y a pas écrit « et leurs enfants », ils n'y vont pas. Donc, c'est à ce point-là. Donc, ils font rien... l'un sans l'autre, mais ils font pas grand chose sans leurs enfants non plus. C'est une équipe, c'est une team.
Et c'est une team qui a construit une vie professionnelle aussi puissante en partant de. Ils se sont connus quand ils avaient rien.
Exactement. Ils viennent tous les deux de milieux très modestes, on peut le dire. Ils vont commencer en faisant des foires et ce qu'ils peuvent en fait pour essayer de s'en sortir. Et ensuite, avec deux bouts de carton, un qui représente une chaise, l'autre qui représente une table, ils vont créer une boîte. Et c'est une boîte qui va n'avoir de cesse de grandir, d'exploser. Et c'est, en tout cas, nous, on le sait à la maison, on en a conscience vraiment, c'est le cinquième enfant.
Ah, c'est drôle. C'est vraiment si puissant dans la famille, cette boîte. C'est un personnage à part entière.
Ah, c'est un personnage à part entière. Ils y consacrent beaucoup de temps et beaucoup d'amour aussi, je crois. Et ils vont même se comporter avec la plupart de leurs salariés comme avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils sont là pour leurs salariés comme ils sont là pour leurs enfants. S'il y a un salarié qui a un problème, il peut s'adresser à eux comme à des parents. Donc, il y en a un qui a un problème de logement, il trouve une solution. Il y en a un qui a un problème de santé, il trouve une solution. Dès qu'il y a un problème de l'habit, quel qu'il soit, il trouve des solutions.
C'est-à-dire que leur façon de vivre et leur façon d'être s'arrête pas à la porte de la maison, quoi. C'est des gens qui sont protecteurs avec les gens qui les entourent, quoi.
Exactement.
Et pourtant, ils vont essayer de la vendre, cette entreprise, parce qu'ils choisissent quand même leur famille par-dessus tout. Et comment ça se passe, cet épisode-là, dans votre vie?
Alors, il y a un moment où ils vont avoir envie, de profiter un peu plus de la vie aussi. Donc, ils vont décider de vendre. Ils auraient voulu que l'un d'entre nous reprenne, mais ça va pas finalement intéresser qui que ce soit. Ça va les décevoir un peu, mais ils rebondissent. Et ils vont vendre pour pouvoir profiter ensemble, voyager à travers le monde, profiter de leurs petits-enfants, profiter de ce qui leur semble être le plus important dans la vie. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'ils ont le sentiment de se séparer d'un enfant, justement. Donc, ils sont dans une contradiction. Ils vont avoir du mal, d'ailleurs, à trouver la bonne personne, la bonne entreprise. Mais ça va finir par se faire. Un petit peu plus dans la douleur, je crois, pour mon père que pour ma mère. Mais ils vont finir, en tout cas, par trouver un accord et par vendre cette société pour pouvoir profiter déjà tous les deux et avec le reste de la famille.
Comme souvent dans le podcast, tout va bien, la vie est belle.
Magnifique.
Qu'est-ce qui pourrait se passer?
Tout va très très bien, à ce moment-là en tout cas.
Et pourtant, il y a maintenant une douzaine d'années, en l'espace de 3 ans, tout ça va changer.
Alors, en l'espace de 3 ans, j'ai envie de dire même en l'espace d'une matinée, tout va basculer. Et plus rien redeviendra jamais comme avant. C'est un samedi matin d'été où moi je m'apprête à aller travailler ce matin-là. Je suis d'audience et je descends de chez moi pour aller prendre ma voiture et prendre la route. Et en vérité, en bas de chez moi, il y a un camion de pompiers. Il y a beaucoup de personnes âgées dans mon immeuble, donc je vais avoir envie de savoir qu'est-ce qui se passe, pour qui, pourquoi. Je m'attends pas du tout à ce qui se passe de l'autre côté du camion. Et en vérité, je vais me rapprocher du premier interlocuteur, en fait, que je vais croiser en demandant ce qui se passe. Et on va me dire, c'est la maison d'en face. Et la maison d'en face, c'est ma maison d'enfance. Et derrière le camion, il y a ma mère et mes deux petits frères et sœurs qui sont en larmes. Et je demande ce qui se passe. Et on me dit, papa a fait un arrêt cardiaque. Et là, tout bascule.
C'est arrivé à un moment fou, c'est arrivé juste après qu'il ait passé la dernière semaine du dernier mois, de la dernière année, à travailler pour l'entreprise.
On est 2 mois après la vente, il doit y avoir encore des petites étapes de transition, mais en vérité, oui, on est à un stade où il est censé prendre sa retraite et juste profiter de la vie. Et en fait, la vie ne lui laissera pas le temps de profiter de tout ça.
Et alors, on sait ce qui s'est passé concrètement?
Non, on ne sait pas. On sait que... Enfin, en tout cas, on sait qu'il se réveille et que dans le lit, un samedi matin, il fait un arrêt cardiaque. Ma mère appelle le SAMU, les pompiers. tout le monde arrive, ils vont pas réussir à le réanimer. Et ils vont donc le transporter en urgence à l'hôpital. À ce moment-là, je pense que c'est momentané, qu'on va le réveiller, et qu'on va prendre soin de lui et que la vie va reprendre. Et ils vont lui refroidir le corps, lui réchauffer le corps. Enfin, ils vont faire tout un tas de trucs sur 3 jours. Et en vérité, au bout de 3 jours, on va nous expliquer que c'est terminé, en fait.
Tu réalises ce qui arrive ?
Alors, sur le moment, pas du tout. Je suis d'une nature optimiste, donc je me dis, il va y avoir un rebondissement, c'est pas possible, il nous arrive pas ça, on n'est pas en train de vivre ça. Et je me souviens d'ailleurs avoir dit à ma mère et mes frères et sœurs dans la salle d'attente, vous inquiétez pas, papa va se réveiller. Il avait juste envie peut-être qu'on s'occupe un peu plus de lui. Mais j'avais tort. Je me pose pas de questions. Je crois que je suis dans une bulle, en fait. Je suis dans le gaz et je comprends pas vraiment ce qui se passe. Et peut-être que je comprends ce qui se passe le jour où on va l'enterrer.
Donc, tu passes cette période tant bien que mal. Vous êtes collés serrés, j'imagine, ta fratrie et ta maman. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois après ?
On va être effectivement assez soudés. On est inquiet pour nous parce qu'on comprend à ce moment-là que tout ce qu'on va vivre à partir de maintenant, c'est sans lui. Ça, on le comprend assez rapidement. On s'inquiète pour ma mère parce qu'on se demande comment elle va faire pour surmonter. On est persuadé qu'elle surmontera parce qu'elle est forte, parce qu'elle a un sacré tempérament, parce qu'on se dit elle en a vu d'autres. Et en fait, on n'a pas du tout conscience de ce qui va se passer par la suite. Et elle va plus vivre, elle va essayer de survivre. Elle veut plus faire les fêtes, elle veut plus fêter nos anniversaires, elle veut plus se réjouir de rien. Elle part en vacances, mais on sent que elle est là, mais qu'elle est pas véritablement là. Et un petit peu plus d'un an après, un soir, un week-end, elle va faire une crise d'épilepsie. On la transporte en urgence à l'hôpital. Et après 6 heures d'examen, on découvre que finalement elle a un cancer des poumons. Et un deuxième calvaire démarre à ce moment-là, en vérité.
Elle accepte bien d'être soignée, ta maman ?
Elle accepte d'être soignée. On sent qu'il y a une volonté de sa part de se battre, de surmonter. Je crois qu'elle a envie... même si c'est difficile sans mon père, d'assister à nos mariages, d'assister à la naissance de nos futurs enfants... de pouvoir être présente pour nous, pour les grands moments de la vie, parce qu'elle a toujours été une maman extraordinaire et qu'elle a toujours été là pour nous dans tous les moments, importants ou pas. Et du coup, je pense que ça lui tient à cœur. Et je pense, même si elle a jamais vraiment voulu le reconnaître, qu'il y a une partie d'elle qui a pas vraiment envie de lutter et qui a plus envie d'aller le rejoindre. Après, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'elle avait envie d'aller le rejoindre, en fait, dès le début, que la vie sans lui n'était pas possible. C'était pas possible de continuer sans lui.
Elle va se battre, pourtant, pendant presque un an et demi.
Elle va se battre pendant 17 mois, où elle va accepter tous les traitements qu'on va lui proposer. Elle va s'infliger un sacré calvaire, parce que ceux qui sont passés par là le savent, en tout cas, la chimio... ça transforme une personne. Et c'est pas que des douleurs physiques. C'est des douleurs sous toutes ses formes. Et elle va battre tout ce qu'elle peut. Mais c'est pas elle qui va gagner, en tout cas.
On peut dire aussi qu'elle a déclenché, enfin, elle a déclaré d'autres cancers et que c'était une vague insurmontable.
C'était une vague insurmontable. Je pense que que s'il n'était pas parti à ce moment-là, son cancer ne serait pas révélé à ce moment-là non plus. Je pense qu'elle aurait réussi à le cacher encore pendant des années s'il était resté. Mais là, ça lui donnait un sacré prétexte quelque part. Donc je pense que c'est lié et on ne pourra pas me faire croire le contraire.
Elle a eu conscience qu'elle arrivait à la fin de sa vie ?
Totalement, parce qu'au bout d'un moment, les médecins nous l'ont annoncé. On nous a dit « reste 2 mois ». Donc on ne savait pas si ce serait un petit peu moins ou un petit peu plus. On savait que c'était une estimation. Et finalement, c'était vraiment impressionnant parce qu'on nous a annoncé ça le 21 janvier 2014. Et elle est partie le 21 mars 2014, à savoir précisément 2 mois après qu'on nous l'ait annoncé. Et ce qui a été pas facile non plus, c'est que c'était le jour de l'anniversaire de son frère.
Je te posais la question de savoir si elle savait qu'elle allait partir, parce que je me demande si elle a pris des dispositions, si elle vous a, au-delà des valeurs qu'elle vous a transmises pendant toute votre vie, est-ce qu'elle a eu à cœur de préparer l'après pour vous ?
Alors, non seulement elle a eu à cœur de préparer l'après, mais en plus de ça, alors qu'elle avait plus de force dans son corps et dans sa tête, je crois qu'elle l'a fait mieux que personne et qu'elle aurait pas pu faire mieux. Elle avait aussi à cœur de profiter de tous les derniers instants avec nous, avec les enfants de ma grande sœur, parce que ma grande sœur avait déjà 2 enfants à ce moment-là. Et elle avait envie de faire plein de choses qu'elle adorait avant de partir. Elle a voulu aller à la neige une dernière fois. On a galéré pour l'emmener, mais on était contents de lui permettre en tout cas de passer un dernier hiver à la neige, puisque c'est ça qu'elle avait envie.
Et donc en mars, tu deviens l'aînée de ta vie, quoi.
Alors en mars, ouais, je deviens l'aînée de ma vie, je deviens l'aînée de ma fratrie alors que je suis pas véritablement l'aînée de la fratrie. Je deviens aussi orpheline entre guillemets. J'ai eu la chance d'être très entourée, mais ça m'empêchait pas de me sentir seule au monde. Et à ce moment-là, je crois que j'ai peur.
Comment ça se passe avec ta famille ? Vous restez collés serrés ?
Alors non. On va pas du tout réussir à rester collés serrés. Il y a tout un tas de personnes qui vont, je crois, ouais, on peut le dire, nous tourner le dos. Et à l'intérieur de la fratrie, les choses vont pas être forcément faciles pour tout le monde non plus, parce qu'il y en a déjà 2 des 4 qui vont partir vivre à l'étranger, pas au même moment, une tout de suite immédiatement après.
Comment ça immédiatement après?
Ma mère part, on l'enterre et j'ai une de mes sœurs qui part vivre à l'autre bout du monde quelques semaines après. Donc on n'a pas perdu uniquement un père puis une mère, c'est on perd nos parents, une sœur, plein de membres de la famille qui sont plus là. On perd beaucoup de monde d'un coup en vérité et c'est pas forcément facile à gérer. Et un petit peu plus d'un an plus tard, une deuxième sœur qui décide de rester à l'étranger. C'est pas facile et à la fois je sais qu'elles ont besoin d'être ailleurs pour surmonter l'épreuve et je vais respecter ça et je vais les soutenir dans ce choix-là, même si sur le moment c'est pas ce que je ressens au fond de moi.
Bah tu te sens abandonnée.
Je me sens abandonnée et à la fois, je sais qu'on va pas tous gérer notre peine et notre douleur de la même manière. Donc j'accepte très rapidement l'idée et j'essaie de m'adapter. J'essaie de m'adapter très vite à ce qui se passe.
Tu dis qu'il y a des gens qui vous ont tourné le dos, donc ils sont pas intéressants, on va pas en parler, même si c'est choquant. Est-ce qu'à contrario, il y a des gens qui t'ont surpris et tu t'es dit, il y a des lumières dans ce tunnel d'enfer, quoi?
Alors oui, il y a des gens qui sont impressionnants, qui sont surprenants. Pour le coup, c'est pas des membres de ma famille, de ma vraie famille, j'entends la famille de sang. Il y a plusieurs personnes qui ont eu un rôle incroyable. Déjà, je crois que la première, c'était la meilleure amie de mon père, qui était devenue la meilleure amie de ma mère. et qui a été pour nous pendant longtemps une tante et qui après est devenue un, alors elle pourra pas remplacer ma mère, mais un substitut de maman quelque part, et qui va être là pour nous dans tous les instants, les bons comme les mauvais, qui va nous aider à gérer tout ce bordel, parce que c'est un sacré bordel l'après, et qui va essayer en tout cas de nous donner tout l'amour qu'elle peut, tout le temps qu'elle peut, toute l'énergie qu'elle peut, et qui va devenir quelqu'un de très très important, et même plus important qu'un vrai membre de la famille. Il y a un autre monsieur qui a été surprenant, qui était initialement juste un collègue de travail de mes parents, qui est devenu un ami proche, et qui, en tout cas depuis 8 ans que ma mère est partie, tous les week-ends prend soin de nous adresser à chacun d'entre nous, en tout cas je parle pour ma fratrie et moi, un message pour nous souhaiter une jolie semaine. Et je trouve incroyable d'être capable de faire ça tous les week-ends de sa vie pendant 8 ans, alors qu'on n'est pas les membres de sa famille, qu'il y gagne rien. Ça m'a montré qu'il y a vraiment des belles personnes et qu'on a un amour ou une amitié qui est vraiment profonde et qui est éternelle. Et ça, c'est impressionnant. Et après, je crois que j'ai eu la chance aussi d'être beaucoup entourée par mes copines d'enfance, par de nouvelles copines et par mes copains avocats aussi qui m'ont aidée à surmonter tout ça.
Ce qui est positif, c'est que ça veut dire qu'on peut choisir une famille et qu'il y a des gens qui peuvent être des lumières inattendues et des soutiens et envoyer de l'amour, alors que qu'ils sont pas obligés par contrat.
Complètement. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui a inventé, ou peut-être que c'est pas elle qui l'a inventé, mais elle utilise souvent cette expression. Elle parle de famille urbaine et j'aime bien. Et je crois que oui, j'ai perdu les vrais membres de ma famille et mes vrais piliers, mais je crois que j'ai eu la chance, en tout cas très rapidement, de créer cette famille urbaine et qui est toujours là pour moi aujourd'hui. Et je les remercie. Et heureusement qu'ils sont là. Je crois qu'ils m'ont sauvé des eaux.
J'ai deux questions. Quand tu dis sauver des eaux, ça veut dire que t'as envisagé de les rejoindre?
Non, j'ai jamais eu de pensée noire, mais je m'inquiétais, je me disais comment je vais m'en sortir, comment je vais retrouver ma joie de vivre, comment je vais retrouver une vie calme et apaisée. Je me posais beaucoup une question au début, je me disais comment on fait quand on n'a plus ses parents, à qui on pose des questions importantes, où on trouve des réponses. Alors les réponses, on les trouve. Et finalement, c'est en ça qu'ils m'ont sauvé des eaux. J'avais pas envie de partir. J'avais juste envie de retrouver ma vie d'avant, joyeuse, calme, sereine, apaisée, simple, avec des joies simples. Et je crois que c'est eux qui m'ont permis de retrouver tout ça. Et s'ils avaient pas été là, je suis pas sûre que j'aurais retrouvé tout ça.
Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais te poser une question, c'est que tu parles de piliers. Et tu m'as raconté une très jolie histoire à propos de ça. Enfin, en tous les cas, je ne sais pas si c'est joli, mais ça m'a infiniment marquée.
Alors oui, pendant la maladie de ma mère, il y avait des moments qui étaient difficiles parce que je cumulais à cette période-là, en tout cas, déjà le deuil de mon père, qui était toujours d'actualité parce que ça restait trop récent. La maladie de ma mère avec tout ce que ça impliquait, parce que c'était pas juste essayer de la soutenir ou de la réconforter, c'était une organisation, parce qu'on devait tous les uns après les autres l'emmener à ses rendez-vous médicaux, la suivre, être là pour elle, faire en sorte qu'elle soit jamais seule. En même temps que ça, j'ai rencontré des problèmes judiciaires. Mon associé de l'époque était en prison, je faisais l'objet d'un contrôle fiscal. Donc c'était un petit peu le tourbillon et je savais plus trop comment gérer mes émotions et surmonter et garder la tête haute. Et j'en avais discuté avec un proche qui m'avait dit: t'as créé des piliers autour de toi et à chaque fois qu'il y a un pilier qui tombe, bah toi tu bascules et tu perds l'équilibre. Et à partir de maintenant, il faut absolument que tu crées des piliers à l'intérieur de toi pour avoir cette force qui te fera tenir et qui te fera surmonter toutes les épreuves. Et c'est vrai que c'était un joli conseil, parce que c'était le seul moyen aussi de tenir et de surmonter, c'était de se créer une force qui vient de l'intérieur, mais que je connaissais pas dans ma vie d'avant.
Parce que t'en avais jamais eu besoin.
Parce que j'en avais jamais eu besoin.
Et
parce que mes piliers extérieurs étaient tellement solides.
T'as évoqué tes problèmes judiciaires, c'était pas rien. Il y a eu des poursuites importantes contre toi. Et est-ce que tu veux en parler ou est-ce que c'est un sujet que tu veux pas aborder ?
Non, on peut en parler. On peut en parler, bien sûr. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire. Ça fait aussi partie de ce qui m'aura rendue plus forte, je crois. Et ça fait partie de toute façon de cette période-là. C'était sur le moment, c'était le moins important. Mais avec du recul, c'était grave ce que je traversais en même temps. Enfin, je m'en étais pas rendu compte, mais c'était grave. J'aurais pu finir en prison. On aurait pu me retirer ma robe. On aurait pu vraiment, on aurait pu me finir, je crois. C'était les ce qu'on me reprochait, c'était grave. Il fallait que je me défende dans un moment où j'avais ni le temps ni la force de me défendre. Et il fallait que je m'occupe d'autre chose. Et c'est vrai que quand ma date d'audience est arrivée 3 semaines après avoir enterré ma mère et que j'ai entendu dans la cuisine mon petit frère dire à ma petite sœur « Comment on va faire si Sophie part en prison ?» Je me suis dit « Il faut que tu te sortes de là absolument, il faut que tu te saisisses du problème. » Et du coup, je me suis battue et j'ai lutté contre ces réquisitions qui étaient lourdes contre moi parce qu'on voulait m'envoyer en prison. On voulait mettre une grosse amende, on voulait m'interdire d'exercer. Et à cette époque-là, ma robe, c'était tout ce qui me restait. Donc, il fallait que je la garde absolument. C'était le seul moyen.
Est-ce que tu veux raconter la dernière audience ?
Alors, c'est une audience qui s'est déroulée sur une semaine. C'est pas facile quand on est avocat d'être le prévenu pendant une semaine en salle d'audience. Déjà parce que t'es pas en robe, contrairement à d'habitude, parce que tous les regards sont dirigés vers toi, parce que tu sens qu'on s'interroge, qu'on se demande si t'es un voyou ou si on fait fausse route te concernant. Et j'ai été émue parce que je crois avoir vraiment trouvé la bonne personne pour assurer ma défense. Il a d'ailleurs un fils qu'à mon âge et qui exerce aussi cette profession. Je crois que ça l'inquiétait de se dire que son fils aurait pu être à ma place et que ça lui a donné envie de me défendre pas uniquement comme une jeune consoeur, mais comme sa fille. Et c'est vrai que pendant sa défense, il a évoqué ce que j'avais traversé déjà et il sentait que ça lui créait une émotion. Alors, qui était pas aussi forte que la mienne, mais qui était suffisamment forte pour émouvoir toutes les personnes qui étaient dans cette salle à ce moment-là, en tout cas. Et c'est un moment qui était assez fort que j'oublierai pas.
On peut dire à la conclusion que t'as pas perdu ta robe?
Alors oui, j'ai pas perdu ma robe. 2 mois de délibéré, finalement, je suis relaxée. Mais mon calvaire s'arrête pas là. Sinon, c'est trop facile. Du coup, le parquet mécontent va faire appel. Dès le lendemain matin à la première heure, je repars pour 2 ans de procédure. Et à l'issue des 2 ans, je vais comparaître devant la cour d'appel de Paris. Et je crois avoir eu la chance de tomber sur des magistrats extraordinaires et qui m'ont sauvé de là et qui ont compris que j'étais pas un voyou, mais que je faisais mon travail et que je le faisais avec mon cœur et avec respect et des règles déontologiques et de la législation en vigueur que j'ai pas au-delà. Donc ça s'est bien terminé, mais c'était long parce que c'était à l'issue de 5 ans de procédure quand même.
Souvent dans le podcast, les gens qui sont invités vivent des choses rarissimes et uniques au monde. Toi, t'as vécu des choses qui pourraient isolément sembler les soucis de la vie. Mais tu l'as vécu dans un condensé de 3-4 années d'enfer absolu. Et là, t'es en face de moi, t'es pimpante, t'es joyeuse, t'es généreuse aussi. Ce qui est surprenant quand les gens vivent des drames, on les entraîne tourner vers eux-mêmes. Toi, c'est pas du tout ton cas. Comment t'expliques ça?
Je sais pas, je crois que... Je crois que mes parents m'ont donné une éducation et des armes dans la vie qui sont tellement puissantes que peut-être finalement, sans s'en rendre compte, ils m'avaient préparé à vivre des choses difficiles. Mon père nous disait quand on était petit, partie du principe qu'on vit dans la jungle et que vous êtes des animaux et que ça va pas être facile. Il nous disait aussi, il y a jamais rien d'acquis dans la vie, et quand on a une épreuve, ce qui compte c'est de rebondir. Je crois que j'ai tout simplement suivi ses conseils. En fait, j'ai rebondi, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Je suis connue pour être rebelle, mais sur certains sujets, je suis disciplinée. Il y a des choses qui m'ont inculqué petite que j'applique aujourd'hui. La ponctualité, c'était quelque chose d'important pour ma mère. J'ai envie d'être à l'heure juste pour lui montrer que je respecte la règle qu'elle m'a imposée. Donc je crois qu'ils m'ont donné des armes en fait pour pouvoir surmonter les choses ultra difficiles de la vie. Peut-être que c'est un mix entre ça, entre les gens qui ont été là pour moi parce que ça a joué. Et je sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que s'ils avaient pas été là, ça aurait été différent. Je sais qu'il y a des gens qui traversent des épreuves et qui n'ont pas cette chance d'être aussi entourés. Je pense que j'ai été sauvée aussi peut-être par mon travail, que ça m'a fait du bien d'être là pour les autres. Et je crois que parce que tous les jours j'assiste à toute la misère du monde, je me suis rendu compte que eux, ce qu'ils vivent, c'est plus grave. Et c'est peut-être ça qui m'a fait surmonter. Je me suis souvent dit ça. Eux, ce qu'ils vivent, c'est plus grave que moi. Et ça a dû me donner la force. Et ça a dû me donner l'envie finalement de reprendre goût à la vie, de reprendre l'envie de faire des projets. Parce que quand on a une vie qui bascule d'une seconde à l'autre, on a peur de faire des projets parce qu'on se dit de toute façon, c'est pas quoi te fait demain, donc c'est difficile de continuer à faire des projets. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'en faire.
Merci.